Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes gaufres au caramel, mes crêpes au Grand Marnier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un jour bien particulier. Je vous propose qu'on le célèbre, qu'on prenne le temps de le savourer ensemble. On reçoit dans le podcast, dans les mecs que je veux ken, la rabbine Delphine Horviller, pour qui j'ai énormément d'admiration. C'est un symbole fort que Delphine vienne dans le podcast. Quand je pense à certains journalistes qui me demandent encore « Pourquoi dans votre podcast vous parlez que de sexe ?» je pourrais vraiment leur répéter « Non, pas que, pas depuis 4 saisons » et à vrai dire, même dès le début, j'ai tout de suite parlé de création, des œuvres de mes invités, que cela soit Marina Rollman, John Malkovich, Laura Felpin, Jérémy Ferrari, Rebecca Zlotowski, Océan, Victoire Toyon, Kyron ou encore aujourd'hui, Delphine Horviller. Et il n'y a pas que le problème des journalistes, il y a certains humoristes, artistes, frileux de venir dans le podcast qui déclinent parce qu'ils ont peur que je leur pose des questions trop intimes. Je devrais leur envoyer cet épisode avec Delphine qui n'a peur de rien, qui ose tout et m'a donné de son temps si généreusement. Vers la 6e minute, elle répond à une question que j'ai coupée au montage parce que je voulais plus la faire exister elle, mais je lui demandais pourquoi on la somme à tout prix de parler alors que Delphine explique justement dans son nouveau livre qu'elle ne trouve plus les mots. Ceux qui lui restent et dont elle nous fait cadeau sont très puissants. On entend quelquefois des sirènes dans la rue, c'est parce que l'on a enregistré chez elle et non au studio. J'avais si peur que mon enregistreur bug, je buvais ses paroles tout en frémissant du moindre couac technique, mais tout s'est bien passé. Je vous laisse donc en présence de Delphine Horviller. Bonne écoute.
Je
te dis
parce que je ne crois pas.
Je t'ai même. Tu verras, je t'ai écrit un poème, donc il ne faut pas que tu sois gênée par mon côté fangirl.
J'adore. Poème. Je prends un petit bout de chocolat.
Ah oui, je t'en prie. C'est parti.
Chère Delphine. Cela fait longtemps que je bois tes paroles, lis tes écrits et rêve de te recevoir dans mon podcast. Je prends mon courage à deux mains pour t'écrire la première fois le 2 décembre 2020. Mon père m'avait confié ton adresse mail. Il est très fier de rappeler régulièrement que c'est lors d'un dîner chez sa compagne qu'il vous a présenté apparemment Valérie Zenati et toi. C'est également lors d'un dîner chez sa compagne qu'Elisabeth Lynchner m'offre ton livre « Il n'y a plus d'ajar » avec une dédicace personnelle de toi. Je découvre que tu connais mon existence, je suis aux anges. Le 24 septembre dernier, je t'écris à nouveau, je vais te voir officier pour Kippour et je suis toujours aussi fan. Je te croise même au restaurant avant, tu es avec le violoniste Éric Slabiak et je vous dis bonjour timidement. Ton sermon est un chef-d'œuvre et me bouleverse. Le 29 septembre, Mazel Tov, on a rendez-vous pour prendre un café, je trépigne. Je ne crois pas en Dieu, mais tu es mon guide spirituel et tu m'aides tellement à comprendre ma relation au judaïsme. Il y a du soleil, on parle de Romain Gary, rien ne laisse présager qu'une semaine après, nous soyons frappés par la tragédie du 7 octobre. Enfin si, ton discours était prémonitoire d'une certaine manière, puisque tu avertissais sur la façon dont Israël est si mal gouverné. Bien sûr, on ne pouvait pas imaginer la cruauté des actes du Hamas, mais la faille sécuritaire de Netanyahou puis la violence des semaines qui ont suivi, les milliers de morts palestiniennes, c'est le cauchemar que tu redoutais. Au moment même où j'écris ces mots, je me demande s'ils sont justes, si je ne devrais pas plutôt me taire, est-ce que maladroitement je mets les choses sur le même plan? Comment devons-nous parler? C'est la question que soulève ton dernier livre, celle de la difficulté du dialogue. Puisqu'il ne faut pas te poser la question « comment ça va ?», je reprendrai la formule de Benjamin Biolay « comment est ta peine ?» La mienne s'en vient, s'en va. Aujourd'hui, parce que j'ai la chance de pouvoir m'entretenir avec toi, elle s'en va. Merci Delphine.
Merci à toi. On peut se tutoyer là.
Oui.
C'est vrai. Merci à toi pour ces mots qui me touchent beaucoup. Je suis très touchée d'avoir pu t'accompagner à des moments voilà, dans ta peine ou dans ton cheminement. J'ai appris dans mon métier de rabbin que, en fait, il faut accueillir avec beaucoup d'humilité aussi ces mots-là, parce que souvent, je suis consciente que ce que les gens ont entendu dans le discours que vous portez, dans ce que je fais, c'est pas nécessairement ma voix, mais c'est une façon dont mes paroles sont entrées en résonance avec l'univers de celui qui m'écoute. Tu vois, par exemple, hyper souvent dans la rue, des gens m'arrêtent en me disant « Oh, grâce à vous, j'ai appris que ta-ta-ta-ta-ta » et je réponds aux gens, mais en toute sincérité, vous n'avez pas pu l'apprendre de moi, parce que moi-même, je ne le sais pas, mais j'ai sans doute dit quelque chose qui a fait comme ça tout à coup a dialogué avec un truc qui était dans l'univers de l'autre, et en fait bon, c'est déjà pas mal, mais je me dis que quand nos univers se mettent à dialoguer, on en sort tous grandis.
Ça, tu le dis dans ton livre un peu, que le rabbin est un passeur et qu'il y a quelque chose d'imperceptible qui se transmet de siècle en siècle,
quelque chose qui est plus grand que nous, en fait. C'est toujours dangereux quand on s'imagine que c'est nous qui parlons. En fait, moi, j'ai souvent l'impression que je choisis des mots, plus ou moins maladroitement, mais c'est la possibilité d'explorer ce qu'on dit des générations passées, qui donne une pertinence à ce qu'on dit. On revisite des trucs qui ont été dits avant nous, mais on les exprime un peu autrement. C'est vrai, mais je suis contente que t'aies parlé de cette question du langage, parce que, en fait, c'est vrai que depuis le 7 octobre, c'est ce qui fait défaut pour moi. J'ai l'impression de pas trouver les mots, et j'ai l'impression que le monde autour de moi ne trouve pas non plus les mots, et qu'on me dit des choses parfois insupportables ou décalées ou abjectes. Les mots sont comme constamment erronés, et je me rends compte que même ceux que moi j'utilise sont jamais les bons, et donc on est coincé dans une espèce de conversation de sourds où on se comprend plus, et ça a été le point de départ de l'écriture de ce livre. J'essaie de retrouver les mots.
Tu le dis très bien dans une page sur le « mais ». J'ai adoré ce passage quand tu dis « Le propre de la guerre est d'assassiner le langage en même temps que les innocents et la subtilité. Et depuis le 7 octobre, je voudrais tant les retrouver, mais le langage fait défaut précisément parce qu'il inclut des mets qui nourrissent un peu plus la douleur des uns et des autres. Le 7 octobre furent commis des actes ignobles, mais des femmes juives ont été violées, mais le sort des enfants de Gaza est terrible, mais des innocents ont été utilisés comme boucliers humains, mais est-ce que c'est ça qui parfois toi te décourage ?
Oui, en fait, c'est décourageant parce que en permanence, ça relativise la simple constatation de la douleur, en fait, et on devrait être dans une simple empathie avec l'autre, quelle que soit notre origine, notre identité, notre ethnie, notre appartenance, un camp qu'on soutiendrait ou un autre. On contextualise pour mieux déresponsabiliser et pour être un peu moins empathique avec la souffrance de quelqu'un ou de la souffrance d'en face, alors qu'il faudrait juste se taire, en fait, et dire à quel point, quand on prend la parole, à quel point on peut être en empathie humainement avec ces horreurs, avec cette souffrance, avec tout ce que ce conflit charrie de part et d'autre de douleur. Et c'est vrai que je ne supporte plus les mets, et je ne supporte plus les gens qui racontent ce conflit comme si c'était un western, des cow-boys et des indiens, et des forts et des faibles, et des gentils et des méchants, et des dominants et des dominés, ou alors qui vous en parle comme si c'était un match de foot où ils étaient sur les gradins en train de siffler ou de balancer des pop-corn et des insultes à un camp ou à un autre. C'est tellement grotesque. C'est la plupart du temps, les gens qui en parlent comme ça, c'est des gens qui connaissent rien au Proche-Orient, ni à son histoire, ni à sa complexité. Et c'est à hurler, parce que si ce conflit était aussi simple que ça, ça fait longtemps qu'on l'aurait résolu. En fait, ce qui est compliqué dans ce conflit, ce qu'il faut bien entendre, c'est qu'il y a des douleurs de part et d'autre, mais il y a aussi une légitimité des revendications de part et d'autre, et c'est pas si simple que ça. Et donc, il faut être capable d'entendre cette subtilité et d'avoir un minimum d'humilité pour reconnaître l'énormité des douleurs et des passifs et de ce que chacun charrie comme horreur, comme traumatisme, etc. Et voilà, ça, tout ça rend très difficile. Mais effectivement, tu as raison, constamment j'ai l'impression qu'on me somme de parler aujourd'hui. C'est-à-dire que j'écris un livre pour dire je ne trouve plus les mots, et quand je viens en parler, on me dit mais vas-y, dénonce, vas-y, dis-le que c'est horrible, plus fort et plus public. publiquement. Et, ouais. et en fait, précisément, non, c'est comme si parce que j'étais juive, alors il fallait que je commence toutes mes phrases en disant ce qui arrive aux Palestiniens est horrible, et après parler de la douleur juive. Mais en fait, c'est terrible. On est à quel point on est assigné à des identités qui seraient innocentes ou coupables, fortes ou faibles, colonialistes ou colonialisées. Enfin, je sais pas. C'est quelque chose qui aujourd'hui est une matrice de lecture ridicule de simplisme qu'il faudrait pouvoir casser.
Toi, quelle est la personne, peut-être dans ton entourage, qui peut t'influencer ou te conseiller? Parce que justement, ce discours de Kippour, est-ce que tu l'as fait en craignant des voix ou est-ce que le fait d'être ancré à gauche, est-ce que c'est quelque chose qui, même sans être justement forcément politisé, est-ce que c'est quelque chose où tu t'es dit à ce moment-là dans ce discours, justement, le fait de politiser un peu le discours de Kippour, est-ce que...
Quand j'ai fait un discours politique, mais qui à mon sens avait une résonance religieuse forte, je m'appuyais sur des textes de la tradition juive pour dire pourquoi il faut se méfier des moments où on est dans un hubris de pouvoir. C'est pas vrai seulement du gouvernement israélien, c'est vrai de tous les gouvernements ultranationalistes, et c'est vrai de tous les extrêmes politiques. Ils veulent toujours nous engouffrer dans des certitudes, dans l'indubitable, et il faut s'en méfier. Et donc au nom de la tradition juive, je disais que la critique notamment du gouvernement israélien aujourd'hui avait une légitimité, et que même peut-être par amour d'Israël on pouvait critiquer son gouvernement. Il y a des gens qui à ce moment-là m'ont reproché de faire un discours aussi politique un jour religieux, en disant mais en fait peut-être c'est pas le moment de porter une parole politique alors qu'on est un jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, un jour de réunion familiale et de la communauté. Moi je trouvais qu'au contraire c'était le moment de le faire. Je m'attendais pas à ce qu'il ait une valeur aussi prémonitoire, et après j'ai eu énormément de mal à le relire parce que il m'a terrifiée. C'est-à-dire quand le 7 octobre est arrivé, j'ai eu l'impression que d'une déflagration qui venait d'une certaine manière illustrer de façon ultra violente ce que j'avais pu dire deux semaines avant. Et donc il y a eu, voilà, pour moi quelque chose de terrifiant. Et aussi, comme tu le dis, c'est compliqué de porter une parole politique critique et de penser contre soi, parce que quand vous pensez contre votre famille, votre camp ou vos proches ou vos amis, immédiatement votre parole elle est récupérée. Elle est récupérée par des gens qui vont essayer de s'en nourrir pour alimenter leur propre idéologie, leur propre propagande, et donc on court le risque. Mais j'ai envie de le dire de façon vulgaire, je m'en fous en fait, qui veut récupérer cette parole avec mauvaise foi, très bien qu'il le fasse. Moi je l'ai pas fait pour attaquer les miens, je l'ai fait au contraire pour réveiller les miens à ce qu'est la nécessaire autocritique. Je pense vraiment qu'on n'est sauvé que par les moments où on pense contre soi dans la vie, qu'il faut être capable de penser contre sa naissance, contre son appartenance, contre son éducation. Et ma chance, ma grande chance, c'est vrai, d'appartenir à une tradition ou de m'inscrire dans une tradition juive où on a été pas mal les champions de ça dans l'histoire, qu'il suffit d'écouter les blagues juives, les grands récits des écrivains juifs. C'est toujours une sorte de façon, une autocritique à peine cachée. Je pense bien entendu à Woody Allen, Philip Roth, enfin tous les grands
auteurs.
L'autodérision, de se dire on va être capable de se moquer de nous-mêmes. Finalement, qu'est-ce que c'est que les blagues juives? Très souvent, c'est des blagues antisémites, mais beaucoup plus drôles que quand elles sont racontées par les antisémites. On est capable de rire des clichés que les gens ont sur nous, de rire de Dieu, de rire du sacré. Et cette distance-là, elle est ultra salutaire. Et peu importe qu'il y ait des gens idiots qui la récupèrent pour s'imaginer qu'ils vont en faire une arme contre nous, le fait qu'on soit dans cette distance-là nous permettra toujours à nous de nous relever et d'être un peu sauvés.
Ah oui, c'est une petite alarme, une petite sirène dans la rue. C'est vrai que dans tes sermons et aussi dans ton livre, il y a vraiment une portée philosophique et poétique et féministe, parce qu'en fait, ce à quoi tu t'attaques, c'est à la puissance, en fait. Et donc, tu expliques à quel point, en plus, c'est totalement contraire à la tradition juive. Et cet appel au doute, à la vulnérabilité, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et il y a plusieurs années, je me souviens, tu avais aussi dit, les femmes parce qu'elles ont la capacité de recevoir en elles-mêmes, connaissent ce que c'est que de pouvoir accueillir l'autre. Tu avais fait des parallèles très forts, alors, et donc il y avait une puissance à plein de niveaux. Et c'est vrai que parfois j'ai l'impression que ce que tu décris là, c'est un peu la réponse à tout, mais même aux relations de travail ou aux relations de pouvoir, en fait, d'accueillir le vulnérable, c'est ce qui assainira.
Ouais, je crois de se savoir faillible. En fait, si je devais aujourd'hui reformuler ça, je dirais que le féminin, souvent, est une certaine conscience de la faille ou de la béance. Alors, on pourrait lier ça à l'anatomie féminine, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Je trouve que souvent, on s'active en nous le féminin, qu'on soit des hommes ou des femmes, d'ailleurs. Quand on a une conscience particulière de notre vulnérabilité, de notre béance, quand on est dans une forme d'intranquillité ou d'incertitude. Je me rends compte aujourd'hui, par exemple, que j'ai souffert comme beaucoup de femmes, particulièrement au début de ma carrière de rabbin, de mon engagement rabbinique, d'un questionnement de ma légitimité. Beaucoup de gens qui disaient « Oui, les femmes ne peuvent pas être rabbins, c'est pas un métier qui peut être exercé par une femme, vous n'avez pas de légitimité, c'est interdit, c'est pas possible », enfin toutes ces phrases que j'ai entendues pendant des années ont fait que pendant les premières années de mon rabbinat, j'ai douté beaucoup de ma légitimité. J'arrêtais pas d'essayer de la démontrer, comme beaucoup de femmes qui exercent des métiers et qui ont été longtemps des métiers d'hommes. J'en faisais 2 tonnes, en fait. J'en faisais trop. Il fallait que je sois irréprochable, que je sois capable de surciter mes sources, d'être encore plus pertinente, d'être dans un registre ultra-intellectuel, dépassionné. J'avais peur qu'on me traite d'hystérique, comme toutes les femmes. Enfin, il y avait quelque chose qui était dans la surdémonstration pour prouver ma légitimité. Et puis, il y a eu une bascule à un moment donné. Je me suis rendu compte que le fait que ma légitimité soit questionnée était ma chance, mon immense chance. Que, en fait, le fait que des gens considèrent que je n'avais pas le droit d'être là où j'étais, ça me permettait en permanence d'interroger ma légitimité à être là. Et quelque chose qui aurait pu être handicapant ou paralysant est devenu une force. Je me suis dit tout à coup que finalement, ça allait me sauver des certitudes. Qu'on grandit dans la vie que quand on n'est pas complètement sûr d'avoir le droit d'être là où on est. Que paradoxalement, quand on est super installé et légitime, eh ben, la zone de croissance n'est plus au rendez-vous. Qu'il y a quelque chose qui grandit en nous quand on est un petit peu dans la marge, qu'il y a une forme de marginalité qui nous fait grandir. Et je crois que je suis très attachée aujourd'hui à ça, quand des gens me disent, très souvent encore dans le monde juif traditionnel, vous n'avez pas le droit d'être rabbin, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites, de dire ce que vous dites. Eh bien, j'ai presque envie de leur dire merci, en fait, d'une certaine manière, de dire oh, merci de me rappeler que je dois en permanence me poser cette question.
C'est génial, parce que c'est très fort ce que tu dis. Moi, de ma manière, je l'avais un peu vécu comme ça aussi, sur le fait que, tu sais, en ce moment, parfois on fait tomber des personnes ou on s'attaque à des personnalités quand elles sont connues. Et puis moi, je me suis dit, mais si on critique par exemple mon féminisme ou qu'on me fait tomber là-dessus parce que j'ai pas parlé là-dessus, ou parce qu'en effet je me tais, ou parce que peut-être qu'en effet, là, pour le 8 mars, on m'a demandé de signer ou de un paquet de trucs, et je suis en mode, ah, c'est les mêmes qui étaient quand même pas très bavard après le 7 octobre, donc peut-être que je vais pas, moi, me mettre à parler quand elle était silencieuse. Enfin voilà, mais, et puis je me dis, puis bon, si on m'attaque, en fait, je me dis, moi, j'ai toujours parlé de mes contradictions de féministe. Et je pense que déjà, c'est ça qui me sauvera, c'est de m'être jamais érigée en exemple, en si tu fais pas de leçon de morale et qu'on vient te dire t'as fauté, ah bah oui, mais c'est ce que je disais depuis le début, c'est j'énonçais toutes mes fautes.
Ouais, exactement. En tout cas, on reconnaissait que, en fait, c'est l'incohérence dans laquelle on grandit tous, il faut la reconnaître, simplement de montrer qu'en fait, on n'est jamais, et c'est le propre de notre humanité, en parfaite cohérence dans la pratique avec nos théories. Mais ça, on en fait l'expérience tout le temps, dans nos vies professionnelles, évidemment dans nos vies amoureuses, mais aussi dans nos vies familiales. Moi, je pense souvent à la façon dont j'éduque mes enfants, et ça me fait toujours rire quand je rencontre des gens qui n'ont pas encore d'enfants et qui vous racontent quels sont les grands principes, ouais, qui suivront forcément un jour. Tout ça, c'est bidon, en fait. En réalité, la réalité dans la vie, c'est que cette incohérence, cette espèce de petit pas de côté entre ce qu'on avait prévu de faire et ce qu'on fait, ce qu'on enseigne et ce qu'on arrive réellement à vivre, est le propre de notre humanité faillible.
Est-ce qu'on peut un peu parler de tes grands-parents, qui sont donc des personnages, principaux de ton livre. Alors moi, ça m'a beaucoup émue parce que à l'écrit, tu retranscris l'accent yiddish. Mm. Et j'avais une grande tante qui est partie, Hélène, mais qui parlait avec cet accent. Donc en relisant, j'avais les larmes aux yeux parce que je l'entendais parler. Et puis c'est très beau, très fleuri. Tu écris vers la fin du livre que parler après la guerre est presque aussi complexe. Je suis bien placée pour le savoir, moi qui suis l'enfant d'une famille où l'on n'a jamais complètement retrouvé la parole, où les berceuses, la grammaire et l'humour ont tenté de couvrir les silences.
Mmh. Oui, je suis vraiment l'enfant de silences différents, mais qui était ultra présent dans ma famille. Ma famille paternelle, plutôt, je vais commencer par ma famille maternelle, c'est des survivants de la Shoah qui ont tout perdu à Auschwitz, femme, épouse, enfant, enfin tout le monde, et qui ont reconstitué une famille après la guerre, un peu par hasard en France, et ma mère est née de cette rencontre, mais ils n'ont jamais parlé. Ils faisaient partie de ces survivants qui étaient murés dans un mutisme terrible, dans l'incapacité de dire quoi que ce soit de ce qui leur était arrivé. Et donc ce silence faisait partie de... Enfin, c'est comme ça qu'ils m'ont raconté leur histoire, sans les mots. J'en savais rien et je savais tout. Comme les enfants savent entendre dans le silence des réponses, j'ai toujours su que j'étais l'enfant de ces non-dits, de tout ça. Et dans ma famille paternelle, c'était une histoire beaucoup plus juive-française, assimilée, mais il y avait aussi un silence très fort qui était un silence, une difficulté à dire l'affect. Je venais d'une famille qui était beaucoup dans la réserve émotionnelle, pour qui... Le côté, on va dire, cérébral et intellectuel de la réflexion servait beaucoup à cacher les émotions. Donc une famille où on avait peut-être du mal à se dire je t'aime, à se prendre dans les bras. Et en fait, j'ai eu l'impression de grandir beaucoup entre ces silences, de combler les silences avec mes mots. Alors, les psychanalystes de comptoir ou pas que de comptoir diraient sans doute que ça a tout à voir avec l'auteur que je suis devenue. Et c'est vrai, et pas seulement avec l'auteur, je dirais avec le rabbin et l'exégète que je suis devenue, c'est que le propre de l'interprétation des textes, de l'exégèse, du commentaire de texte dans mon métier de rabbin, consiste à faire parler les silences. Vous avez un texte, mais il manque des infos dans le texte. C'est pas très clair. La Bible, on peut pas le comprendre comme ça. Ça veut rien dire. Ou alors, au sens premier, c'est ultra violent, ou pour une sensibilité moderne, insupportable. Donc, en fait, pour pouvoir vraiment lire ce texte, il faut mettre des mots dans les silences. Il faut faire parler le non-dit. Et donc, voilà, je suis effectivement l'enfant de ces silences multiples. Mais de plus en plus, je crois, la vie avançant, qu'on transmet beaucoup plus de choses dans les silences que dans les mots. Je trouve qu'on est très très souvent l'enfant des histoires qu'on ne nous a pas racontées, plus que de celles qu'on nous a racontées. Que tout ce qui était manquant, en fait, tous les fantômes du récit nous hantent et nous construisent. Là, tout ce que je ne dis pas, est-ce que les gens vont entendre?
Oh, j'entends plein de choses. Aussi, ton métier est d'accompagner les gens et les familles vers la mort et vers le deuil. Tu en parles aussi encore dans ton livre, c'était le sujet de vivre avec nos morts, qui est magnifique, magnifique. Et ça doit être lourd, mais il doit y avoir une flamme profonde en toi pour trouver quand même à chaque fois le moyen de te confronter à cette tristesse et d'y mettre de la lumière.
Ouais, je crois que je me dis souvent quand j'accompagne le deuil que il faut qu'on se débrouille pour que la mort n'ait pas le dernier mot. C'est toujours mon... En fait, quand la mort frappe, bien sûr qu'on pourrait s'imaginer qu'elle vient mettre un point final à l'existence et que c'est elle qui gagne à la fin. Mais je crois qu'il nous est donné de lui claquer le beignet d'une certaine manière, c'est-à-dire de dire non, tu es là mais tu n'auras pas le dernier mot parce qu'on va se débrouiller pour raconter le disparu par sa vie, pas par sa fin, mais par ce qui dans sa vie est sans fin, par ses grandeurs et aussi par ses failles, par ses ratés, par les lapins qu'on lui a posés, par les loupés qui ont été ceux de sa vie, par ses grandeurs, par ses réalisations. En fait, parler de la vie, même dans les cimetières, c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on doit faire. Et oui, sans doute que la présence très nombreuse des morts dans ma vie de famille, dans mon héritage, mais je ne suis pas la seule, hein, on est nombreux à vivre avec nos morts, avec les morts de nos familles, a sans doute conditionné mon cheminement vers cet accompagnement-là. Et de fait, dans les cimetières, je me rends compte que très souvent, c'est là où on a les plus grands fous rires. Peut-être que tu devrais enregistrer des podcasts dans les enterrements.
Ça serait fou. Ouais.
Mais parfois, il se passe des choses incroyables dans les enterrements. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait l'enterrement d'un monsieur dont le fils est venu me voir et quand je lui ai demandé de me parler de son père, le disparu, le défunt, il m'a dit « Oh, mon père, il parlait pas, mais il passait sa vie à raconter des blagues juives plus ou moins lourdes et pas très drôles. » Et voilà, donc je lui ai dit « Ah bon, est-ce que vous voulez parler de lui à l'enterrement ?» Il m'a dit « Non, non, j'aurais pas le courage de prendre la parole. » Le moment venu à l'enterrement, j'ai vu que ce monsieur trépignait un peu, qu'il avait, semble-t-il, été un peu intranquille. Et donc, je lui ai passé le micro. J'avais un micro. Je lui ai dit, venez, dites quand même un mot. Et là, pendant une demi-heure, il a raconté des blagues à l'enterrement de son père. Les blagues de son père. Et on était tous morts de rire. C'est le cas de le dire. Vivants, mais morts de rire. Et en fait, je me suis dit, c'est fabuleux parce que cet homme, à l'enterrement de son père, lui a dit, je suis ton fils, je suis ton héritier. Et tu m'as transmis ça. Aussi, et il y avait quelque chose de si puissant dans le fait que, au lieu de pleurer, on riait tous autour du cercueil. Qu'il y a quelque chose là-dedans qui était un des plus beaux hommages qui puisse être.
Alors Cédric, t'es très attaché à l'humour. Moi, j'adore. Il y a plein de jeunes mots qui ouvrent plein de petites fenêtres dans la tête. Et il y a encore un autre parallèle que tu fais. Donc, tu fais un parallèle très intéressant entre l'amour des Juifs pour la France et le statut de maîtresse. Alors ça, c'était très très fort, j'ai trouvé, parce que tu dis. Donc, tu parles des Israélites. Donc, les Juifs en France, c'est la famille du côté de ma mère. Du côté de mon père, c'est juif d'origine polonaise, mais tu dis la pratique juive des Israélites, si discrète, presque invisible, cachait sans doute une peur profonde, la crainte de n'être jamais l'épouse légitime d'un pays adoré, de rester pour toujours sa maîtresse clandestine, celle qu'on renie forcément un jour pour mettre à l'abri de son foyer. La dette à la patrie abritait un peu de ce doute existentiel. Cette gratitude extrême était le vêtement flamboyant qui drape avec beaucoup d'élégance des angoisses et des douleurs bien juives, la peur de ne pas être aimée autant qu'on aime.
Oui. Oui, j'ai senti ça très fortement dans ma famille paternelle, mais jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a un amour mais passionnel de la France, de la République, de la laïcité, de l'histoire de France, et aussi la conscience que par moments, la France nous a trahis. Alors bien sûr, la France est la France de l'émancipation des Juifs et de Léon Blum au pouvoir, mais la France est aussi la France de Vichy et la France des anti-Dreyfusards et le sentiment que ce pays pour lequel on a tant d'amour, eh ben de temps en temps, il nous plante comme un homme le ferait vis-à-vis d'une maîtresse qu'on peut aimer en temps de paix, mais de temps en temps, quand un conflit conjugal s'annonce ou une crise quelle qu'elle soit, eh ben, elle sera la première à être sur le carreau, en fait. Et je crois que voilà, cette conscience de la vulnérabilité du statut des Juifs en France est quelque chose que j'ai toujours perçu dans ma famille. C'est-à-dire que notre amour profond et passionnel et viscéral pour la France allait de pair avec une conscience non dite de notre absolue vulnérabilité.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment aimer, mais comme une maîtresse qui ne sait pas s'il reviendra le week-end prochain.
Oui, ou si peut-être effectivement il oubliera de l'appeler, ou il l'oubliera tout court, ou il la rejettera parce qu'il a trouvé mieux ailleurs, enfin je ne sais pas. Mais on le voit aujourd'hui, on en parle à un moment terrible d'explosion des actes antisémites en France, où en fait tout le temps se pose la question de est-ce que la France fait assez pour venir à bout de ce fléau absolu. Et c'est vrai que moi, je suis très souvent interrogée là-dessus sur les explosions des actes antisémites et j'ai toujours envie de répondre à ceux qui m'interrogent mais c'est pas mon problème. L'antisémitisme, c'est le problème de la France, pas le problème des Juifs. C'est à vous de vous demander comment on protège tout le monde, mes enfants, les vôtres et tous les enfants qui grandissent ici. Pourquoi ce serait aux Juifs de commenter cette actualité-là? Pourquoi? Je me souviens, après les attentats en 2015, notamment de l'hypercacher, plein de médias de journalistes venaient me demander est-ce que vous allez rester, est-ce que vous allez partir, et je trouvais cette question tellement indécente de demander aux Juifs finalement leur responsabilité, ce choix qu'ils allaient faire, alors que c'était évidemment le problème de la République, le problème de la France. Et donc on est encore aujourd'hui ramené à cette vulnérabilité-là, à toujours devoir faire la preuve de notre ancrage ou alors de notre fidélité à ce pays. Aujourd'hui, certains, au nom de l'attachement des Juifs à Israël, mettent en question leur allégeance à la France, à la patrie, comme si c'était toujours à redémontrer, comme si, peu importe depuis combien de siècles votre famille est là en France, quelque chose en vous restait à tout jamais étranger.
C'est vrai que c'est un peu flippant et tes quelques mots sur la manif contre l'antisémitisme m'ont aussi beaucoup frappé dans ton livre et c'est vrai que moi, je l'ai vécu dans mon entourage. Alors, j'ai voulu dans un milieu très à gauche, d'extrême gauche, je me suis pris, je peux le dire maintenant, plein la gueule de ne pas avoir voté Mélenchon au premier tour des dernières élections, mais vraiment, on m'a dit que j'étais de droite, enfin bref, j'ai vraiment, donc j'ai supporté, c'est pas grave. Et là, la manif contre l'antisémitisme, mon propre petit copain n'a pas voulu venir parce qu'il ne voulait pas manifester avec la présence de l'extrême droite. Et ça m'a rendue très triste parce que j'étais là. Mais bon, et puis j'ai essayé de le comprendre. Je me disais, mais. Et puis, en fait, quand j'y étais, après, on a dû avoir une grande explication parce que ça fait qu'un an qu'on est ensemble. Et je lui ai dit, en fait, je pensais que pouvoir accepter nos divergences et qu'on ait un désaccord un peu là-dessus, comme on peut ne pas voter forcément pour les mêmes personnes. Mais en fait, je lui ai dit, tu m'as manqué. J'aurais voulu que tu sois là. Bon, et c'est vrai que t'en parles, toi aussi, donc d'amis qui seraient un peu comme les miens.
Oui, oui, moi j'ai été sidérée par cet argument de « on viendra pas parce qu'il y aura des gens qu'on veut pas fréquenter à la manif ». Mais enfin, j'imagine qu'ils ont déjà manifesté avec des gens pas très fréquentables.
Aussi.
Et puis, je me suis posé la question, d'abord, pourquoi ils étaient tellement prêts à m'abandonner ou à t'abandonner ou à nous abandonner avec des gens qu'on juge pas très fréquentables plutôt qu'au contraire de nous tenir la main et d'être à nos côtés, et je le dis avec une pointe effectivement de référence historique dans le texte, pourquoi est-ce qu'on se débrouillait pas pour être tous ensemble à la manif et faire du Rassemblement National un point de détail de cette histoire, en reprenant le fameux jeu de mots terrible de Le Pen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Au sujet des, bien entendu, des chambres à gaz. Enfin, pourquoi est-ce qu'on y était abandonné? Pourquoi est-ce qu'on nous forçait à créer des alliances dont bien entendu, ni toi ni moi ne voulons? Et puis, de façon plus large et philosophique, je me suis posé la question de, ok, ils voulaient pas venir parce qu'il y a des gens pas fréquentables, mais est-ce qu'ils n'iront pas non plus à l'enterrement du père de leur meilleur ami ou au mariage de leur cousin parce qu'ils savent qu'il y a un oncle raciste, misogyne ou un sale type qui sera présent, bien sûr. Que si, j'ose espérer qu'ils seront là pour les gens qu'ils aiment, tout simplement parce qu'on a besoin d'eux. Donc pour moi, cet argument, il tenait pas, il venait raconter d'autres confusions et d'autres horreurs, parce qu'on peut les appeler, à mon avis, comme ça, des abjections qui ont été celles d'une certaine ultra-gauche ces derniers mois. Voilà, il y en a eu tellement que je vais pas les citer, mais l'incapacité à parler de terrorisme après le 7 octobre reste un indéfendable absolu. Quand Mélenchon parle des oukas du CRIF, met en avant une espèce de main manipulatrice des organisations juives sur le gouvernement, enfin, toutes ces expressions-là, elles c'est sont horrible. La boîte de Pandore traditionnelle de l'antisémitisme. Enfin, de s'imaginer que les organisations juives manipulent la France, tiennent le pouvoir dans sa main, mais qu'est-ce que c'est que ces rhétoriques antisémites hallucinantes, et de voir que des gens à l'ultra-gauche, que je respecte énormément, hein, pour leur combat pour la justice, non seulement ne dénoncent pas, mais tolèrent tranquillou, ces expressions « on ne peut plus » abjectes et puantes. C'est très compliqué. C'est très compliqué de préserver ces amitiés, surtout quand voilà, elles sont... Ces propos sont énoncés par des gens que vous avez longtemps considérés comme votre famille politique. Aujourd'hui, c'est comme si toutes les cartes avaient été rebattues, comme si beaucoup d'entre nous se retrouvaient orphelins.
On se sent très seul.
Ouais. Orphelin d'une famille idéologique.
Il y a juste peut-être un point positif. Moi, j'ai essayé de positiver. Tu sais, dans le noir, on essaye toujours. C'est que, en fait, sur Mélenchon, j'avais l'impression de le sentir et de le savoir. Et déjà avant, il y avait d'autres trucs qui étaient pas tout à fait OK, mais les gens mettaient ça sur le compte un peu de cette fameuse paranoïa juive, tu vois. Mmh. Et donc, au final, quand Mathilde Panot, quand tout ça, quand ils ont voulu ne pas dire parler d'actes terroristes, mais d'actes guerriers, là, j'étais en mode, ah, c'est bon, je le savais. Maintenant, ne me dites pas que c'est dans ma tête. Tu sais, un peu comme une femme à laquelle on fait du gaslighting et tu vois, on lui dit, mais c'est toi qui es folle. Et je me dis, non, stop, maintenant, il n'y a plus de doute possible quand même sur l'ambiguïté de son langage.
Oui, et puis ça a été même chose, effectivement, de la famille féministe pour moi. Je continue à dire que rien ne me laissera me faire kidnapper le mot de féministe. Je suis féministe et c'est un combat extrêmement important pour moi. Mais il m'est particulièrement douloureux de voir que certaines actrices de ces militantismes féministes qui s'érigent comme les grandes défenseuses des femmes aient été totalement incapables de dénoncer ce qu'a été le viol comme arme de guerre du Hamas. Aujourd'hui, c'est documenté. On sait à quel point les violences sexuelles ont frappé les femmes israéliennes le 7 octobre. Et l'incapacité de le dénoncer ou tout à coup l'idée qu'il s'agirait, ou je ne sais pas, sous une forme de résistance légitime et à proprement parler ignoble, c'est un tel piétinement de tout ce pourquoi on s'est battu. Tout ça au nom d'une grille de lecture, encore une fois, tellement simplificatrice et erronée, de s'imaginer qu'il y a d'un côté des forts et de l'autre des faibles, des dominants et des dominés. Je trouve ça hallucinant de voir à quel point, d'une certaine manière, certaines féministes ont transformé le combat palestinien en un combat de femmes, même quand les combattants du Hamas violent des femmes juives, et à quel point, aux yeux de ces mêmes féministes, tout ce qui relève de l'identité israélienne ou juive est du côté de la masculinité ou de la masculinité toxique, comme si toutes les juives étaient devenues des hommes, si je devais caricaturer, et comme si tous les Palestiniens étaient féminins. Pour moi, c'est d'autant plus dingue que tout au long de l'histoire, on a précisément accusé les juifs d'être un peu trop féminin, de manquer de virilité, d'être lascif ou hystérique, d'aimer l'argent. Enfin, on leur a jeté au visage des accusations misogynes classiques. On disait toujours des juifs
sensuels,
voilà, qu'ils étaient finalement pas assez virils, ils n'avaient pas de capacité de se défendre, pas d'armée, pas de souveraineté. Et tout à coup, à bras cadabra, l'antisémitisme aujourd'hui fait feu de, puisqu'il fait feu de tout bois, a transformé ça et considère que les juifs, au contraire, sont le mal alpha à travers les traits du soldat israélien. Tout à coup, au contraire, ils sont ceux qui s'en prendraient aux femmes, aux féminins, aux faibles, et ne seraient que du côté de la domination virile. Mais il n'y a pas d'autre mot que c'est tellement caricatural et c'est une telle dinguerie que, en fait, on a même du mal à combattre ces clichés-là.
C'est terrible. Et pourtant, il y a eu une enquête de Libération quand même sur les manquements de nous toutes et sur ce qui s'est passé à la manif du 25 novembre quand même, quand le cortège des femmes qui dénonçaient les crimes sexuels du Hamas a été bloqué, qu'elles n'ont même pas pu manifester avec les autres femmes. Enfin, quand même, c'est d'une tristesse sans nom. Et alors après, on voit, quand on essaye de dénoncer ça, d'autres postes de féministes qui nous accusent de vouloir diviser les féministes. C'est le monde un peu à l'envers. Et c'est sûr que ça...
Oui, et puis alors, l'autre monde à l'envers, c'est une défense par certaines féministes du Hamas. Ça a aussi existé, notamment aux États-Unis, mais dans des villes européennes aussi. Et quand on connaît les valeurs du mouvement islamiste qu'est le Hamas, c'est-à-dire la défense des crimes d'honneur, des viols, enfin des violences faites aux femmes, l'impossibilité pour les femmes d'étudier, de s'émanciper, etc. C'est quand même effectivement le monde à l'envers.
Ouais, c'est complètement fou. Et c'est vrai que là, d'un coup, moi, j'ai eu un peu une perte de... C'est vrai, une déflagration, parce que déjà, quand il y a eu MeToo, pour moi, ça a été une vraie révolution positive. Mais il a fallu aussi enterrer certaines idoles plutôt du côté des hommes, en me disant, tu vois, de me questionner sur l'attachement que j'avais au film de Polanski ou au cinéma de Woody Allen, ou de me dire, oh là, peut-être c'est le moment de savoir que j'allais regarder différemment le cinéma ou certains artistes. Et je pense que j'ai trouvé du réconfort dans la sororité, dans le féminisme, parce que je me disais, c'est beaucoup des femmes qui me suivent sur Instagram, des groupes de copines qui viennent voir mon spectacle. Et d'un coup, en effet, ça le... le silence, je me suis dit, mais donc je perds tout. C'est-à-dire, je perds les artistes dont j'apprends en fait qu'ils étaient des agresseurs, et je perds celles qui les ont dénoncées, parce qu'en fait, au final, elles ne sont même pas... Qu'est-ce qui nous reste, en fait?
Ben, il nous reste uniquement la nuance, en fait, parce que le point commun, souvent, entre ces deux camps que tu opposes, c'est un manque de nuance, une façon caricaturale de regarder le réel. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réhabiliter la nuance. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, encore une fois, dans tout ce qu'on vient de dire, c'est que... On n'est pas en train de dire que les Palestiniens ne souffrent pas, que les femmes palestiniennes ne sont pas victimes de ce conflit, qu'elles ont besoin d'être défendues. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a dit ça qu'on ne peut pas reconnaître l'horreur de ce qu'ont vécu les Israéliens le 7 octobre, et particulièrement des violences sexuelles à l'égard des femmes. Et en fait, pouvoir tenir ce discours qui est le contraire du discours du « mais » et qui est ce qu'on pourrait appeler le discours du « et », E-T. Pouvoir dire ceci et cela, défendre les uns et les autres, c'est notre seule chance de salut. En fait, il faut qu'on soit capable d'être en permanence dans cette complexité, mais qui implique parfois d'être dans de la négation de nous-mêmes. Enfin, comme tu le disais tout à l'heure, il faut accepter nos propres incohérences, de dire qu'on n'a pas toujours été à la hauteur de nos principes. C'est-à-dire, ça oblige à un regard critique pour ne pas se croire exemplaire, parce que cette illusion d'exemplarité, en fait, elle nous amène toujours à la faute, et elle fait de nous des gens qui sont dans la caricature, et dans la caricature, ça n'a jamais nourri un projet politique de vie, mais toujours un truc ultra morbide.
Il y a une autre solitude, c'est-à-dire qu'il y a la solitude vis-à-vis de, dont je dirais, ses amis féministes, extrêmes mélanchonistes. Il y a une autre solitude et une autre discussion difficile qui est celle entre juifs. Je ne sais pas si toi aussi tu l'as ressenti, mais je le vois avec ma famille ou parfois, c'est-à-dire que quand justement je vois les vidéos du Monde, Libération, récemment, les soldats israéliens, la famine à Gaza et les convois humanitaire, et parfois j'en discute avec des amis juifs et qui me disent mais c'est faux, c'est les chiffres du Hamas, tout est trafiqué. Et je me dis oula, mais bon, la discussion paraît aussi impossible, oui. Parce qu'ils semblent faire eux pour le coup,
parce que c'est propagande contre propagande et que chacun veut se convaincre que la moralité est de son côté et qu'on n'est plus du tout capable d'être dans un discours d'autocritique, parce que le propre de la guerre, c'est que tout à coup on sait que la guerre, c'est pas seulement une guerre des armes, mais c'est une guerre des mots, et tout le monde est persuadé que si on commence à être dans l'autocritique, on va fragiliser notre camp et qu'on a un devoir de solidarité et de soutien absolu. Et ça, c'est, je comprends très bien d'où ça vient, mais ça n'a jamais aidé personne. Moi, souvent, je le dis à mes amis juifs, je crois que c'est précisément par amour d'Israël que je critique Israël. Par amour des miens que je critique les miens. Et parce que je crois que personne n'a besoin de soutien inconditionnel dans nos vies. Mais c'est vrai, pas juste d'un point de vue de la politique, mais même dans nos familles, dans notre façon d'éduquer nos enfants, dans notre couple. En fait, moi, je crois que le propre de l'amour, c'est que c'est pas un truc d'inconditionnalité où on n'adresse pas de reproche à l'autre. Au contraire, c'est une capacité à dire « là, tu déconnes ». Là, il faut que tu changes cette façon de faire. Enfin, je crois qu'on a toujours besoin de ces critiques à partir du moment où on sait d'où parle l'autre. C'est-à-dire qu'il y a du respect, de la bienveillance et de l'amour, mais que ça ne va pas nous empêcher de dénoncer une critique. En fait, je pense qu'il faut être capable de repenser ça, de revisiter ça. Tu sais, dans la Bible, il y a un verset, je vais mettre maintenant une seconde mon chapeau de rabbin, ma barbe de Rabbi Jacob. Il y a un verset dans la Bible qui est peut-être le plus connu de toute la Bible. Presque tout le monde le connaît, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais en fait, ce verset, il est ultra connu, mais c'est une mauvaise traduction. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Alors, attention, c'est un scoop pour ton podcast. Mais le verset complet dans la Bible, il dit « Tu pourras adresser des reproches à ton prochain. Tu ne porteras pas sa faute et alors tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et quand on lit le verset en entier, il veut presque dire l'inverse de ce que la culture populaire lui fait dire. Les gens, ils s'imaginent que la Bible, elle enseigne l'amour inconditionnel du prochain, mais pas du tout. Ce que dit la Bible, c'est « Il faut que tu puisses adresser des reproches à ceux que tu aimes pour ne pas porter, toi, leur faute. Et alors, quand tu auras exprimé ces reproches, tu pourras aimer ton prochain. » Mais en fait, l'amour est conditionnel.
Waouh, à la puissance. J'ai donc l'impression que c'est la meilleure défense à une discussion nécessaire sur la charge mentale.
On va le décliner de plein de manières.
Oui, il y a plein de façons. Tu sais, si jamais quand je reproche à mon copain, je dis mais cet emballage,
tu l'as pas acheté.
Tu l'as pas acheté. Et il me dit oh, mais est-ce qu'on est obligé de se disputer? Pourquoi on parle de ça? Et puis moi qui dis ah oui, mais peut-être que j'aurais pas dû. Ben non, mais j'ai pas envie de porter ça. C'est ton.
Ah, c'est parce que je t'aime.
C'est parce que je t'aime. Ah génial, génial, génial. Je vais l'adapter de plein de façons. Je voulais aussi te parler parmi les névroses, donc il y a peut-être cette question de parano, juive ou pas. Toi, finalement, quel choix tu fais, Delphine, dans ta vie, d'être au quotidien?
Ben, je sais pas si je fais un choix. Il y a en moi de la paranoïa, mais de la paranoïa, même les paranoïas qui ont des ennemis, d'abord, on le sait. Mais en fait, je crois que... je suis paranoïaque, mais au sens, psychanalytique du terme. Le propre de la paranoïa, c'est quand tu décides que tout fait sens. En fait, la paranoïa, c'est de voir un lien entre plein de choses qui n'en ont pas. Par exemple, là, je sais pas, un verre d'eau est posé sur la table, le livre est ouvert à telle page. Une pensée paranoïaque, c'est une pensée qui cherche à, pratiquement comme dans les jeux de quand on était petit, à tracer des traits entre les points pour que un dessin émerge. Et je me rends compte que je fais très souvent ça dans la vie. Je cherche du sens, j'écoute les mots, j'entends les silences. Et d'une certaine manière, c'est une forme de paranoïa. Il faut faire attention, et, évidemment, de ne pas percevoir le monde entier comme nos ennemis. Mais on a bien des raisons dans ce monde de se méfier, en fait, d'être à l'affût. À la fois de ce qui pourrait nous faire grandir et de ce qui pourrait nous blesser, nous assassiner.
Est-ce que tu es atteignable par la jalousie que d'autres pourraient te porter? Il y a encore une autre phrase dans ton livre que je trouve extraordinaire. C'est quand tu parles de l'expression yiddish de ta grand-mère, Kein Ore.
Oui.
Le mauvais œil, expression qu'on utilise chaque fois qu'on craint que la jalousie d'un autre ne nous porte la poisse.
Ah mais ça j'y crois totalement. En fait, le mauvais œil dont les gens parlent comme d'une espèce de superstition, en fait, c'est intéressant. Souvent les gens n'entendent pas cette expression. Pourquoi on parle d'œil? Parce que, en fait, la poisse, elle peut venir potentiellement du regard jaloux de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un voit éventuellement votre bonheur ou votre réussite ou vos succès et va commencer à vous jalouser et à vous vouloir du mal. Et je crois que c'est très dur dans la vie de conserver un regard bienveillant. Souvent, notre regard jaloux, il vient de notre amertume, du sentiment qu'on n'est pas là où on devrait être, qu'on n'a pas ce qu'on devrait avoir. Et tout à coup, on accuse un autre d'avoir plus de chance que nous, d'avoir eu plus d'opportunités, ou alors même carrément de nous avoir piqué notre place là où on devrait être. Et donc c'est vrai que moi je crois assez à ça. Il faut faire très attention, il faut toujours se poser la question de comment les autres accueillent notre parole et qu'est-ce que potentiellement elle crée chez eux. En fait, je crois que la jalousie et l'envie ont un vrai pouvoir nocif. Il faut apprendre à les désarmer. Alors, j'ai pas tout plein de gris-gris. Il y a des gens qui croient à tous ces gris-gris qui ont des petits fils rouges, des machins, des un œil autour du cou, etc. Mais je crois, c'est vrai, à la force destructrice de l'envie.
Qu'est-ce que tu réponds parfois, moi, quand je croise des gens et je leur dis que je crois pas en Dieu, ils me disent « Ah, mais donc t'es pas vraiment juive ?» Et je leur dis « Mais non, mais moi, c'est comme ça que je suis juive. » Mais...
Ouais, alors ça, c'est... Ouais, mais tu vois, c'est la démonstration là, du grand malentendu sur le judaïsme. C'est que les gens pensent que le judaïsme est comme le christianisme, c'est-à-dire que c'est une autre religion. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Le christianisme est évidemment centré sur un dogme et une croyance. C'est sa force, d'ailleurs, et sa grandeur et sa richesse. Mais la tradition juive, elle se construit sur autre chose. C'est beaucoup plus qu'une simple religion, et pour certains c'est même pas du tout une religion, pour certains c'est une culture, une certaine façon de voir le monde, de penser, de manger, d'expérimenter la réalité, de transmettre, de se sentir appartenir à une histoire ou à un peuple. Mais ça n'a d'une certaine manière rien à voir avec ce que vous croyez. On peut être très très juif et ne croire en rien, ou ne pas mettre la foi au cœur de son engagement, de cette identité juive. C'est en fait plus complexe que ça. Et c'est vrai que le judaïsme, c'est souvent compliqué de l'expliquer à des non-juifs, parce que c'est pas qu'une religion. Pour certains, c'en est pas une du tout. Et c'est beaucoup plus centré sur le faire que sur le croire. En fait, c'est une religion assez incarnée. Souvent, on est juif parce qu'il y a un mode de pratique qui n'est pas forcément une pratique religieuse. D'ailleurs, pour certains, ça passe par des recettes de cuisine, une certaine façon de parler, de faire preuve d'autodérision, de second degré. C'est une identité plus complexe que simplement du croire. Et le Talmud et nos textes sacrés le disent bien, en fait. D'une certaine manière, dans la tradition juive, Dieu se fiche complètement qu'on croit en lui. C'est pas son problème.
C'est génial. En cherchant sur Internet, j'ai vu que ton grand-père, dont tu parles tant, que tu as l'air d'aimer profondément, avant de devenir donc prof, il aurait voulu se lancer comme rabbin ?
Il a fait des études rabbiniques. Et puis, après avoir reçu un diplôme, il a changé d'avis, apparemment. Je sais pas, en fait, il en a jamais parlé. Mais enfin, de fait, il a finalement fait une agrégation de lettres classiques et il est devenu enseignant et prof et proviseur, mais il a jamais exercé comme rabbin.
Et toi, tu te souviens du moment où, parce que donc tu fais des études de médecine en Israël, tu deviens journaliste ensuite en France. Est-ce que tu te souviens du rêve ou du moment où l'étincelle où c'est aux États-Unis, à New York, que tu te dis en fait?
Oui, c'est la première fois que je le verbalise, mais en fait, j'étudiais depuis très longtemps les textes, je m'intéressais à l'exégèse, à l'interprétation des textes, mais j'aurais été totalement incapable de formuler ma volonté de devenir rabbin parce que j'avais grandi dans un monde où il n'y avait pas de femmes rabbins et ça ne me paraissait même pas une option. Et puis un jour, je suis allée aux États-Unis étudier. Et là-bas, j'ai croisé pas mal de rabbins de la mouvance, on va dire, libérale ou progressiste, dans laquelle il y a aux États-Unis beaucoup de femmes qui exercent. Et un jour, un de ces rabbins m'a dit « Mais avec ton parcours, pourquoi tu ne deviens pas rabbin toi-même ?» Et à ce moment-là, j'ai ri parce que j'ai pensé qu'il me faisait une blague. Et comme lui n'a pas ri, c'est troublant, mais le fait que, à ce moment-là, et j'ai compris qu'il était sérieux. Et ça m'a ouvert une porte. Tout à coup, je me suis dit « Tiens, ça peut ne pas être une plaisanterie. » Et si c'était beaucoup plus sérieux que ce que j'ai envisagé. Et tout à coup, il m'a donné la possibilité, lui, de le verbaliser. Et après, la porte était ouverte et j'ai rejoint l'école rabbinique. Et c'est devenu pour moi de l'ordre d'une évidence que ce que j'avais cherché ailleurs, dans la médecine, le journalisme, me menait vers le rabbinat.
Est-ce qu'avec ce livre, parce que donc, souvent, ce qu'on vient chercher chez un rabbin, c'est un petit peu de lumière, d'espoir. Est-ce qu'avec ce livre, c'était aussi une réponse pour t'autoriser à dire « ça va pas de dire à tous ceux qui peut-être qui te mettent une pression ou qui te disent « il faut que tu nous tires vers le haut » de dire « mais moi, là, je suis en bas aussi
». Oui, en fait, c'était pas tant une volonté de leur dire ou de le dire au monde que... En fait, je l'ai vraiment écrit comme un journal intime désespéré. J'ai beaucoup écrit la nuit, dans mes insomnies, et en fait, je pensais même pas qu'il serait publié. Juste, ça n'allait pas du tout. Mais quand je dis que ça n'allait pas du tout, c'était pas juste mental. Je somatisais terriblement. Je me suis mise, après le 7 octobre, à boiter. Pendant un temps, je me suis fait une entorse terrible à la cheville. Et puis après, j'ai perdu ma voix. Pendant un moment, j'étais aphone pendant plusieurs semaines. Et je toussais. C'était très compliqué, même physiquement, ça n'allait pas du tout. Et effectivement, ça rendait même difficile de remplir ma fonction. Où, au quotidien, j'accompagne des gens, donc il faut que je sois suffisamment solide pour les accompagner. Et je me sentais tellement cassée que j'étais même plus sûre de pouvoir faire mon travail, de les accompagner. Et donc, je n'ai pas essayé de dire que ça n'allait pas. Je n'ai pas eu le choix, en fait. Et je crois que parfois, l'écriture, c'est ça. C'est la conscience qu'on n'a pas le choix, qu'on cherche à... En fait, c'est une tentative de survie, tout
simplement. De consolation.
Oui, de consolation et de survie.
Est-ce que je peux te poser les petites questions pour finir du questionnaire de Proust ?
Alors, je suis super nulle à cet exercice-là.
Oh, bon,
alors, très bien. Je suis vraiment nulle à l'exercice de Proust.
J'arrive à 200 épisodes du podcast. Et alors là, Delphine, tu tombes dans le panneau. C'est-à-dire que toutes les femmes les plus intelligentes à qui j'annonce ça, elles sont là. Ah, mais je suis nulle. Il n'y a pas un mec sans invité qui a dit cette phrase.
C'est vrai.
Je te jure.
Ça, c'est le syndrome de l'imposteur chez les femmes. C'est... Alors voilà. Bon, mais prépare-toi quand même à ce que je sois nulle.
Delphine, quelle est la qualité que tu préfères chez un homme ?
Sa capacité d'écoute, sans doute. Elle est rare.
La qualité que tu préfères chez une femme ?
Ça, ouais, je dirais aussi en fait sa capacité d'écoute, c'est la même. Et je dirais chez les uns et chez les autres aussi l'empathie. En fait, la, c'est une capacité un instant de se mettre à la place de l'autre, ne serait-ce qu'une seconde.
Le principal trait de ton caractère ?
Je crois que je suis intranquille. Je suis jamais vraiment sereine et tranquille. Et par exemple, j'adorerais être capable de méditer. Et en fait, je peux pas. Il y a quelque chose en moi qui est tout le temps dans l'intranquillité. Il y a comme un séisme permanent dans ma tête. Et il n'y a pas vraiment de moment de sérénité pour moi.
Mais c'est ce qu'on aime chez toi, c'est ce qui se ressent dans ta littérature. Il y a cette espèce de fleuve agité dans ta parole, d'urgence et passionné. Et je trouve que c'est très agréable et t'écris vraiment très bien.
Merci.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ?
Je crois que c'est leur humour. J'aime les gens qui... Leur humour et leur autodérision. J'aime les gens qui ne se prennent pas trop au sérieux. Surtout quand ils font des métiers sérieux. En fait, j'aime ce moment du petit décalage qui est très important pour moi dans mes amitiés, de pouvoir avoir des conversations avec mes meilleurs amis qui soient des conversations cérébrales, parfois philosophiques, mais de se dire dans la seconde d'après qu'on va faire un karaoké. Et qu'on va pouvoir hurler à tue-tête, se déchaîner. En fait, j'ai besoin de ce dialogue permanent entre les profondeurs et la superficialité qui, pour moi, est le sens de la vie et de ses joies.
Puis t'aimes la musique. Et c'est vrai que... Et Claude François. Moi, je suis fan de Claude François aussi, j'adore.
Oui, moi, j'aime les musiques. J'aime la variété, souvent. Là, par exemple, je dois faire une interview pour une radio très classique. On m'a demandé de choisir des musiques classiques. Et c'est une vraie galère pour moi parce que, bon, je ne suis pas du tout une spécialiste de musique classique. Par contre, s'il m'avait demandé de choisir, je ne sais pas, du...
Barbara Streisand.
Ou alors toutes les musiques des années yéyé, ou même Britney Spears, j'aurais trouvé beaucoup plus facilement des titres.
Ton principal défaut ?
Bon, j'en ai plein. Mon principal défaut... j'ai besoin que les choses aillent très vite. Je suis pas du tout patiente. Ouais, donc ça c'est un gros défaut. Faut que mes décisions, je dois les prendre très vite. J'ai horreur d'attendre, de remettre des choses à demain. Si je fais pas un truc tout de suite, je le fais pas.
Ton occupation préférée ?
Mon occupation préférée. J'adore, c'est pas très original, mais j'adore lire et j'adore enseigner, en fait. J'adore enseigner, oui. J'adore ce moment d'échange avec des étudiants, des élèves, ce moment où tout à coup vous enseignez un truc et vous-même en l'enseignant, vous comprenez que vous le compreniez pas. Qu'en fait, vous enseignez un truc, mais vous le comprenez que parce que vous l'avez enseigné à quelqu'un d'autre.
Ton idée du bonheur ?
Mon idée du bonheur, c'est d'être avec quelqu'un que j'aime, qui me lit une histoire.
C'est beau. Quel serait ton plus grand malheur ?
Qu'il arrive quelque chose à mes enfants, ça, sans aucun doute. C'est un impensable pour moi. Je me sens extrêmement protectrice à l'égard de mes enfants et j'ai l'impression que voilà, il n'y a rien de plus important pour moi que de les savoir heureux et épanouis.
Où aimerais-tu vivre ?
En fait, nulle part ailleurs. Je crois que j'aime beaucoup ma vie parisienne. Pourtant, j'ai vécu dans plein d'endroits différents. J'ai vécu au Proche-Orient, j'ai vécu aux États-Unis. Mais aujourd'hui, j'aime Paris dans son agitation et en même temps, il y a quelque chose dans Paris qui est plein de aussi des lenteurs de l'histoire quand même. On a l'impression que c'est pas New York. Il y a quelque chose de pesant dans cette vieille Europe qui me convient bien. Des espèces de strates, des sédimentations de l'histoire qu'on ressent à Paris, de sa vie culturelle. Enfin, plein de choses qui font que je suis très attachée à cette ville.
Ce que tu détestes par-dessus tout ?
La mauvaise foi. Oui, je déteste la mauvaise foi et les gens pétris de certitude.
Comment aimerais-tu mourir ?
En ayant l'impression que c'est pas un drame. J'aimerais bien mourir en me disant que c'est pas une tragédie. et je pense que c'est en fait ce que je souhaite à tous les gens que j'aime. Au moment de leur mort, bien sûr, les gens qui les aiment seront tristes, mais seront capables de se dire que c'est pas la fin du monde, que c'est pas une vraie tragédie, qu'il y a eu suffisamment d'accomplissements dans leur vie de choses qui existent grâce à cette personne et de possibilités que leur vie soit prolongée par ceux qui leur survivent pour que ce ne soit pas un drame ou pas qu'un drame.
Et enfin, quel est ton état d'esprit actuel ?
Ça dépend des jours, mais je me rends compte que je suis de nature assez optimiste, mais qu'en ce moment, cette nature a pris un sacré coup et que je veux croire que je vais retrouver, comme on dit, la lumière au bout du tunnel, le sentiment de la possibilité de se reparler, de construire, de croire à nouveau. Mais en ce moment, je trouve qu'il fait drôlement noir.
Merci Delphine. Et voilà, c'était l'incroyable Delphine Horviller. C'est la première fois que je réécoute un épisode du podcast et que je note autant les paroles de l'invité. J'aime particulièrement quand Delphine dit que la matrice de lecture aujourd'hui est ridicule de simplisme et qu'il faudrait pouvoir la casser. Ou alors, quand elle lance « Les blagues juives sont des blagues antisémites, mais beaucoup plus drôles que quand elles sont racontées par des antisémites. » Le féminin, c'est une certaine conscience de la faille, de la béance. On est très souvent l'enfant des histoires qu'on ne nous a pas racontées. Tous les fantômes du récit nous hantent et nous construisent. Il faut qu'on se débrouille pour que la mort n'ait pas le dernier mot. Lui dire non, tu es là, mais tu n'auras pas le dernier mot. Parce qu'on va se débrouiller pour raconter le disparu par sa vie, pas par sa fin. Par ce qui, dans sa vie, est sans fin. Delphine s'exprime tellement bien. J'adore aussi quand elle dit « On m'a souvent interrogé là-dessus, sur l'explosion des actes antisémites, et j'ai toujours envie de répondre, mais c'est pas mon problème l'antisémitisme, c'est le problème de la France, c'est pas le problème des Juifs, c'est à vous de vous demander comment on protège tout le monde, mes enfants, les vôtres et tous les enfants qui grandissent ici. Pourquoi ce serait aux Juifs de commenter cette actualité-là ? Pourquoi ?» C'est très fort aussi quand elle martèle « Rien ne me laissera me faire kidnapper le mot de féministe. Je suis féministe et c'est un combat extrêmement important pour moi. » Ou plus tard quand elle dit aussi « C'est précisément par amour pour Israël que je critique Israël. » On peut être très très juif et ne croire en rien. Ne pas mettre la foi au cœur de son engagement, de son identité juive. Dans la tradition juive, Dieu se fiche complètement qu'on croit en lui. C'est pas son problème. J'ai besoin de ce dialogue permanent entre les profondeurs et la superficialité qui pour moi est le sens de la vie et de ses joies. Mon idée du bonheur, c'est d'être avec quelqu'un que j'aime, qui me lit une histoire. Je suis époustouflée, vraiment époustouflée par tant d'intelligence. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous laisse avec ces mots que j'ai notés précieusement et que je vais chérir. Je suis incroyablement reconnaissante à Delphine Horviller d'être venue dans le podcast et d'exister, de faire entendre sa voix, de répéter dans ce contexte horrible qu'est la guerre, que notre cœur peut saigner à deux endroits. Nous ne sommes pas obligés de choisir pour qui va notre empathie. Nous ne pouvons qu'espérer un cessez-le-feu et la libération des otages. Comme le dit Delphine, utilisons ce « et » bien plus réconciliateur que tous les « mais » cyniques, là pour amoindrir l'horreur. Je vous embrasse bien fort et je vous remercie d'écouter le podcast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast « @lesmecsquejeveuxken » sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.